Votre rêve se réalise. Je suis là.
Ah, ça y est. Ça y est, il est là. Il est descendu parmi nous. C'est Pierre-Marie sur le 101.5.
Radio G.
Tu vas nous parler de quoi ? Quel nouveau cette visite ?
Alors, cette entrée en matière ne sort pas de nulle part, sinon de mon esprit, mais c'est un hommage à une de nos auditrices fidèles, sinon la plus fidèle, qui m'a mis au défi de commencer par ceci.
Je vais lui faire coucou sur le
et
chat.
Comme elle ne l'avait pas entendu la dernière fois, je me suis permis de le refaire cette fois-ci. Mais petit hommage à elle aussi, je vais parler du Bélial de la collection Une Heure Lumière avec sa nouveauté, Claire North Sweet Harmony.
Voilà,
parler anglais me fait tousser, vous le remarquerez. Claire North, que j'avais déjà chroniqué pour sa trilogie de la Maison du Jeu, sortie également chez Une Heure Lumière.
C'est en plusieurs tomes ça, pour le coup.
Ouais, trilogie, trois tomes, jusqu'à là, ça va.
C'est pas courant chez les Heures Lumière.
Et du coup, alors ils l'ont sorti là en 2021-2022, la Maison du Jeu, alors que c'était un livre qui avait été sorti en 2010 en langue originale. Là, ils ont décidé de se rapprocher un peu plus de la nouveauté puisque le titre est sorti en 2021 pour une traduction en 2024.
All right. Karine, t'es encore en train d'écrire sa chronique. Ça va, ça l'est prête. Bah, ton coup, je t'entends pas bien. Là.
Et moi, comme je vais vous parler du roman de Wilfried Renaud publié aux éditions Rivière Blanche, qui se nomme Sylvagnus.
C'est bien ça. Wilfried, c'est quelqu'un qui a déjà remporté des concours imaginaires, un peu, on peut dire ça,
il a été dans deux fois dans une anthologie, dont une fois en tant que lauréat, puisque les lauréats n'ont pas le droit de reparticiper au concours. Et puis, il a été présent à Imaginaire, mais surtout, il a aussi gagné d'autres concours, puisqu'il a été chez AOC, Présence d'Esprit. Je me demande s'il n'a pas été chez Onéry aussi. Ben ça, il faudrait que je revérifie. Je suis peut-être en train de vous dire des bêtises.
C'est bien possible.
Je crois pas avoir vu ça.
En deuxième partie d'émission.
Les noirs d'absinthe.
En deuxième partie d'émission, on s'écoutera l'interview de l'autrice Chris Vuklicevic que tu avais réalisée aux Utopiales et dont le nouveau livre vient tout juste de sortir.
Alors, non,
il y a quelques jours.
Oui, le nouveau livre,
mais qu'elle a écrit sous pseudo.
Sa nouveauté date d'il y a quelques temps, mais par contre, la nouvelle qui est importante sur sa nouveauté, qui est du thé pour les fantômes, de mémoire, a été sélectionnée, enfin, c'est le prix Imaginal 2024, donc elle recevra son prix le 23-24 mai, donc juste après notre salon.
Mais en fin d'interview, elle parle d'un autre roman qu'elle a écrit sous pseudo, Ada Vivalda. Et ça s'appelle Porcelaine sous les ruines. C'est une romantaisie et ça vient tout juste de sortir aux éditions Olympe.
Il y a quelques jours.
Et puis du coup, vous en entendrez parler dans l'interview. C'est pour ça qu'on l'a passée aussi tard. C'est parce qu'elle nous avait demandé de la passer juste après la sortie de son bouquin, puisqu'elle en parle un petit peu.
Tout à fait. Et puis on commence avec un petit peu d'actu musical. Ravage Club, on les avait déjà passés dans cette émission pour un concert au Joker's Pub. Le concert, c'était pas fait. Les membres du groupe étaient malades et donc ils reviennent le 1er mars. Et on va s'écouter Langevin qui fait la première partie. C'est D'Or dans Imaginaire sur le 100.5. applaudit bien fort.
Non.
D'or, 3 R à la fin. Oui, une angevine, c'était le morceau Human Love. Et bah, j'espère que vous avez chanté, dansé, tapé du pied pendant ce morceau comme Pierre-Marie, parce que et plus ça va aller, plus les musiques vont être ultra déprimantes. Dans cette émission, restez avec nous jusqu'à 22h. Normalement, le dernier morceau devrait vous faire pleurer.
Donc, dès les premières pages de son roman, Wilfried Renaud nous plonge dans l'environnement oppressant d'Urbacore, où le contrôle de la population ne passe pas par la répression directe, mais par la dépendance de plaisir, de joie, par l'intermédiaire de technologies et de contrôle de masse, à travers notamment des couvre-feux, des agents de police nommés les
Corbionis. C'est la France en 2022, ça.
Ah, peut-être. La bourse, un organisme qui centralise les hormones et qui conçoit des embryons si on voudrait un enfant. Tout passe par des hormones et la dépendance à la technologie pour rendre le peuple plus docile, et ça semble marcher. Sauf que, comme dans toute société qui veut un contrôle total de la population, des personnes s'insurgent et se battent pour leur liberté. Au tout début du roman, on rencontre Lune et 47. 47, c'est un personnage qui fait partie des Corias, un groupe de révolutionnaires qui veulent partir vers la forêt de Sylvaxis, le nom du roman, également, là où, semble-t-il, réside leur dernière chance de vivre comme bon leur semble, en toute liberté d'action. Ce personnage est plein de mystères, et tout particulièrement son nom. Nous aurons quelques réponses au fil des pages où on explore leur quête, leur amour, leur combat, pour un monde plus serein. Wilfried Renaud réussit à nous emporter avec des chapitres dynamiques, un univers riche qui m'a rappelé notamment 1984 de George Orwell. L'auteur a une plume percutante qui nous submerge d'émotions et de révoltes. Il explore le libre arbitre, le rapport au corps, la violence au travers de la dépendance. Est-ce qui fait notre société, finalement, cela nous pousse à réfléchir, à questionner certains comportements, la société actuelle et ses failles. Wilfried Renaud a un master d'histoire médiévale et a été conteur dans la forêt de Brocéliande, ce qui lui a transmis l'envie de raconter des histoires. Il est auteur et nouvelliste, vous pouvez le retrouver dans différentes anthologies, dont le nôtre. Et je vous laisse avec Nordic Anthem de Borknagar.
Nagar avec Nordic Anthem dans Imaginaire sur le 100.5. Un extrait de leur 12e album à paraître le 23 février.
Ceci étant dit, je tiens à faire un aparté avant de me lancer dans ma chronique, car Romain, vous avez prévenu, les musiques allaient vous faire déprimer, les chroniques sans doute un peu plus que les musiques.
Eh ben,
ce soir, prenez du Lexomil ou coupez la radio, ça sera peut-être plus simple.
Mais non.
Et enfin, mention spéciale à ceux qui aiment les Une Heure Lumière et notamment qui n'ont pas le temps de les lire, il y en a un paquet. Faites attention, il y a quelques éléments de spoil dedans, qui ne sont pas les éléments dont je vais parler ne sont pas essentiels au récit, mais essentiels à ma chronique. Ceci étant dit, qui est Claire North? Claire North est née en 1986 en Angleterre. Elle aime les petits pains. Non, ça c'est pas écrit, on en a rien à faire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a écrit son premier roman à 16 ans, sous sa véritable identité, Catherine Webb. Elle écrit de la blanche. Et un jour, elle a décidé qu'elle en avait un peu ras le cul de la blanche et d'autres choses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même la littérature. Et elle s'est pris un pseudo pour écrire de l'imaginaire. Elle a commencé en 2014. Elle a eu pas mal de prix, notamment le Cambem Memorial en 2015, et puis la critique unanime pour la trilogie des Maisons de Jeux. Sachant cela, et voyant le succès commercial, puisqu'une maison d'édition est une société commerciale, Le Bélial a décidé de faire main basse sur absolument toutes les nouvelles novellas qu'elle pourrait sortir, et grand bien, ils ont eu très bonne idée. Ils l'ont amené aux Utopiales, et nous avons donc pu interviewer Claire North. Quand je dis « nous l'avons interviewé », ce n'est pas tout à fait vrai, puisque nous ne parlons pas suffisamment anglais pour le faire, nous avons donc fait appel à un traducteur. On a posé des questions en français, elle a répondu en anglais.
Et c'est là que tu as vu qu'elle aimait bien les petits pains.
Et c'est là que j'ai
dans la salle de presse
discuté avec elle sur des choses et d'autres.
Mais cela ne nous regarde pas.
Ce que je peux vous dire et qui va vous intéresser, c'est que Catherine North est une personne extrêmement engagée. On commence à avoir l'habitude d'en côtoyer. Et d'une certaine manière, avait un ton policé lors des tables rondes et des interviews, parce que c'était de la prise de parole publique. Mais dans les échanges, elle est bien plus dynamique et dithyrambique sur les sujets qui lui tiennent à cœur, notamment le consumérisme et le patriarcat. Des thèmes dont on entend parler un petit peu, mais là qui sont la base de son récit, Sweet Harmony. De quoi que ça cause? On va suivre une personne en, je vous dis pas de bêtises, 158 pages exactement. On va suivre une fille qui s'appelle Harmony Mids. Elle a tout réussi dans sa vie si on suit un petit peu, si on regarde superficiellement sa vie. Elle est belle, elle est intelligente. Elle est agente immobilière pour maisons de luxe, pour des stars. Elle gagne bien sa vie. Elle sort avec un homme magnifique. Et tout le monde les envie. Oui, mais le roman commence avec un bouton. Non, pas celui d'une télécommande. Elle a un bouton au milieu de la joue.
Oh, mon Dieu! Il y a Tetsuo aussi qui commence comme ça, le film d'horreur japonais, mais bon.
Dans le film d'horreur japonais, c'est pas une araignée qui sort du
mais
bouton?
Non, c'est une espèce de petit coup. Picouillou là, et puis après, elle devient
mais
une machine. Une araignée
c'est
après.
Ultra chiant les boutons.
Alors ouais, c'est vrai, non. C'est tout à fait quoi ultra chiant. Mais
là, on sent que c'est
d'autant
pas un
plus
bouton
chiant qu'elle n'en a jamais eu de sa vie des boutons. Mmh. C'est son premier de sa vie à 29 ans. Rendez-vous compte. En fait, tout ce roman-là n'est qu'une critique, comme je vous disais, du consumérisme. Cette fille n'a jamais eu de boutons parce que on est un peu plus tard que 2023 dans notre monde et la nanotechnologie est une technologie réelle auquel on a accès. Toute personne peut prendre de la nanotechnologie de manière à s'éviter les incommodations de la vie, on va dire ça comme ça. Vous avez un pack obligatoire qui est pour se protéger de la grippe, du tétanos, l'équivalent des vaccins, quoi. Toute personne doit avoir ses nanos et paye une redevance qui est, on est sur un pays anglo-saxon, ça se passe à Londres d'ailleurs, donc là il y a une redevance annuelle, il n'y a pas de sécurité sociale, comme en France. Mais c'est de l'ordre d'une cinquantaine de livres, ce qui représente 60 euros à l'année.
Pour un agent immobilier, ça va.
Ça va. Sauf que on va suivre, le roman n'est pas linéaire dans la manière d'écrire, et on va suivre des allers-retours dans sa vie, on va comprendre les choix qu'elle a fait. Puisque si elle a un bouton, c'est pas pour rien. Et on se rend compte dans sa vie que bah, c'est une femme de notre société qui a dû prendre en charge tous les traitements liés à sa sexualité pour éviter les grossesses non prévues, les choses comme ça. Donc ça ne passe pas par des préservatifs, ça ne passe pas par des pilules, ça se passe par de la nanotechnologie. Elle est mince grâce à la nanotechnologie, elle est belle grâce à la nano, etc. Elle est intelligente grâce à la nano, tout ça.
Ah oui.
Et ce ne sont que des abonnements. Sauf que au fur et à mesure des abonnements, bah, ça coûte. Et surtout, ce sont aussi beaucoup des dictats patriarcaux qui font qu'elle a fait ces choix-là à un moment donné de sa vie, qui sont tout à fait logiques sur le moment, mais c'était pas la meilleure idée qu'elle avait pu avoir. Et en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, ça s'arrête. Sauf que la loi, dans ce roman-là, dit que si vous avez des nanotechnologies qui sont utiles à la vie, on n'a pas le droit de vous les désactiver, on n'a pas le droit de vous les retirer.
Du coup, si tu ne payes pas ton abonnement.
Exactement. Et là, c'est la critique en parallèle avec ce que nous pouvons entendre rapidement sur les manifestations agricoles du moment. C'est comme les céréales. Actuellement, les céréales qu'on utilise pour faire pousser n'importe quel végétaux n'est pas fertile. On est obligé d'en racheter chaque année, on ne peut pas les replanter après. Et là, c'est la même chose. On est obligé nos technologies, et on ne peut pas les supprimer. Par contre, ce que peuvent faire les fabricants, donc là, ce sont des corporations de santé, ils peuvent amplifier quelques désagréments. Une éruption d'acné, ou des règles qui deviennent douloureuses, ou des maux de tête de plus en plus fréquents, des choses comme ça, qui ne sont pas suffisamment inconfortants pour que ça puisse être donné une urgence vitale, je cherche les mots, excusez-moi, mais suffisamment pour que les gens n'aient pas envie que ça leur arrive et donc soient prêts à payer. Et c'est marqué dans leurs conditions d'utilisation. Ils ont le droit. À partir de là, la question qu'ils se posent, et c'est la trame du roman, c'est à quel moment est-ce qu'on est vraiment pieds et poings liés avec la santé? À quel moment est-ce qu'on a le choix sur sa propre santé? Et puis toujours cette question qui me fascine, qu'on avait dans Bienvenue à Gattaca, qu'on avait aussi dans La Fontaine des âges et Celle qui rêve et l'autre pas, de Nancy Kress, c'est la question de la nature par rapport à la technologie. Parce que là, la question qu'il y a, c'est celle du transhumanisme. On est prêt à améliorer un corps sain pour des vues esthétiques ou confortables. Avoir un meilleur maintien, être un peu plus grand, juste parce qu'on se redresse, sans y penser, etc. Ce sont des petits tips qui nous permettent d'être plus beaux et donc plus acceptés dans la société, se faciliter la vie. Oui, mais à quel prix ? C'est une question qui revient souvent, qui interroge souvent, et qui là en plus, avec une autrice qui met en place une fille, dans des questions que toutes les filles ont eues à un moment donné dans sa vie, c'est la question de juste gérer soi-même le fait de ne pas tomber enceinte, alors que l'homme se décharge de ça. Les hommes aussi ont des dictats physiques dans la société, hein. C'est d'ailleurs mis dans le roman, hein. Il est assez égalitaire dessus. Mais là on suit une personne féminine et on se rend compte que à quel moment est-ce qu'elle avait le choix, en fait? À quel moment est-ce qu'elle avait elle a toujours le choix, mais à quel moment est-ce qu'elle avait un choix qui n'allait pas l'emmener plus loin dans le mauvais côté de sa vie? En fait, c'est ça. C'est à quel moment on s'assume et à quel moment on veut s'en sortir.
Sur ce. Ok, et ben, ce seront des sujets qui seront aussi abordés dans l'interview de Chris Vuklicevic qu'on va écouter
tout à fait, parce que c'était l'interview était très intéressante parce qu'elle arrivait deux semaines après une table ronde qu'on avait organisée sur le corps auprès de l'université de Saint-Serge, et notamment la question de la figure du mâle et ce qui est beau et bon et ce qui est moche et méchant dans l'imaginaire depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Et il y a toujours cette idée-là, il n'y a pas très longtemps, pour notre appel à texte, on a eu des nouvelles qui étaient comme ça, où il y a toujours cette question de ce qui est beau est forcément bon et ce qui est moche est forcément mauvais. Et là, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on évolue plus vite et plus facilement dans la société quand on est beau, alors que beau, suivant des critères qui évoluent avec les sociétés, hein, ce qui est beau actuellement ne l'était pas forcément avant, c'est pas la question. Mais voilà, c'est à quel moment est-ce qu'on va jouer avec les codes esthétiques de la société pour s'en sortir. Donc l'interview est très intéressante sur ce point de vue-là.
On passe à ton choix musical.
Alors oui,
c'est Tina S.
Laisse-moi finir parce que j'ai une introduction pour cette musique, monsieur. J'y réfléchis, super. Moi je ne balance pas comme certains des musiques sans raison.
Juste sur play.
Raison est toute faite.
Pourquoi ce choix musical? C'est l'utilisation de la technologie pour améliorer ce qui était déjà beau avant. Je vous laisse avec le troisième morceau de la sonata.
Troisième mouvement.
C'est la sonate au clair de lune de Beethoven, mais version hard rock metal.
Ouais, ça shred pas mal. On va imaginer sur le 5.5. Tina S dans l'imaginaire sur le 101.5. On enchaîne avec l'interview de Chris Fuklisevic que Pierre-Marie, tu avais... Karine aussi, tu étais là, je pense.
Alors, j'étais là pour faire des photos.
Ah oui,
moi, j'étais en mode paparazzi.
Voilà, et toi, tu mangeais des petits pains pendant ce temps-là.
Il n'y en avait pas dans la salle pour éviter qu'on entende les pendant l'interview. Mais après...
Je mange silencieusement d'abord.
Bon, on s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
L'association imaginaire est toujours présente aux Utopiales et cette fois-ci nous avons la choix de retrouver Chris. Je te laisserai prononcer ton nom de famille. Je sais que tu y tiens et donc ça m'embêterait de l'écorcher. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir te voir, d'une part parce que tu es une autrice primée et extrêmement intéressante, et puis d'une certaine manière tu es aussi une consoeur puisque tu as toute une activité à la radio en lien avec les livres. Chroniqueuse à la radio, tu me dis que ton émission n'existe plus et que tu l'as transformée en podcast. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus ?
Alors, j'ai été chroniqueuse pour une émission qui s'appelait La Bouquinerie Jeunesse, qui était sur Radio Campus Paris, qui parlait de littérature jeunesse. Ça avait été monté par une amie à moi, Laetitia Lajoigny, qui est écrivaine aussi. Et quand l'émission de radio s'est terminée, je me suis dit que ce serait chouette d'embrayer sur autre chose. Et donc, je lui ai proposé de faire un podcast avec elle, Léa, qui est une autre amie qui faisait partie du podcast de l'émission La Bouquinerie Jeunesse. Et deux autres amis à nous qui sont écrivaines aussi. Et l'idée, c'est que nous cinq, on écrit et on se réunit une fois par mois pour parler d'écriture. Ça s'appelle le club où on discute d'écriture sans filtre. Donc c'était dans le nom. On parle d'écriture de manière très horizontale. C'est vraiment un partage d'expérience. Et c'est sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. Okay.
Est-ce que ça a un lien avec l'association dont tu es membre fondatrice qui s'appelle Heptalon et qui est là pour donner des retours gratuits sur des manuscrits ?
Ça n'a rien à voir, mais en tout cas c'est complémentaire, on va dire, moi, dans ma pratique et dans mon expérience, puisque je trouve ça hyper formateur aussi pour moi, constamment, de me confronter à des manuscrits, des premiers jets d'autres écrivains qui aimeraient peut-être être publiés, et de pouvoir leur faire des retours. L'idée, c'est vraiment retour gratuit, constructif, bienveillant et honnête. Ce que les gens n'ont pas toujours, en fait, quand ils écrivent, quand tu fais lire ton texte à tes proches, ben, en fait, t'as pas forcément justement cet avis honnête ou bienveillant ou constructif. Donc voilà, c'est le but de l'association qu'on a montée.
Et c'est toujours une association qui existe et qui est en activité.
Oui, tout à fait. Vous pouvez nous envoyer vos manuscrits sur le site heptalon.fr et on les lira. Il y a juste un peu d'attente parce qu'on est bénévole et que ça prend beaucoup de temps de faire des fiches de retour. Mais on continue à œuvrer.
Toujours confondu ?
Tout genre confondu, il n'y a que quelques genres qu'on ne prend pas, notamment l'autobiographie. C'est beaucoup trop compliqué pour nous de faire un retour critique sur quelque chose d'aussi personnel. Il me semble qu'il y a aussi la poésie qu'on ne prend pas parce qu'on n'a pas les outils critiques. Et le théâtre, je crois, pareil. Parce que c'est des genres qui demandent quand même une certaine expertise pour pouvoir dire si c'est bon ou pas, s'il y a des pistes d'amélioration. Mais voilà, sinon après, beaucoup de genres rentrent dans le reste.
Et tout ça, tu l'as fait avant de devenir autrice, avec des gros guillemets, puisqu'on ne devient pas autrice, ça fait déjà des années que tu l'es, mais en tout cas que tu aies la reconnaissance. Tu as participé à un concours, celui des 20 ans de Folio, qui a permis à ton manuscrit, lui, d'être édité. C'était une marche où tu avais déjà une pratique d'édition un peu plus ténue avant ce Folio ?
J'avais été éditée, alors ma toute première publication remonte à mes années de fac, où je faisais partie des ateliers d'écriture poétique de la Sorbonne. Et à la fin de l'année, ils prenaient un peu les meilleurs poèmes qui avaient été faits dans l'année. Et c'était publié aux éditions Sillage, dans un très beau recueil. On avait aussi fait une lecture à voix haute enregistrée. Il y avait le CD dans le livre et tout. C'était un peu stylé. Mais voilà, ça, c'était ma toute première publication, qui n'était pas vraiment, on va dire, de l'édition traditionnelle, même si, voilà. Et ma vraie première publication, c'était une nouvelle à travers le PJE, le Prix du Jeune Écrivain. C'était la deuxième fois en fait que je participais. C'est pour les écrivains jusqu'à 25 ans. Et j'avais participé dès mes 24 ans. Ma nouvelle s'était retrouvée dans les finalistes mais n'avait pas été sélectionnée. Et du coup, pour ma dernière année de participation possible, j'ai renvoyé une nouvelle qui cette fois a été retenue. Et pour le coup, c'est aux éditions Buchet-Chastel, dans un recueil qui s'appelle Noir. Et ça a vraiment été hyper fondateur pour moi, dans le sens où ça m'a confirmé. J'étais validée en fait. J'ai un peu un côté bon élève qui m'a fait me dire, ok, c'est bon, on m'a dit que je savais écrire. Et c'est ça derrière qui m'a décomplexée en fait pour me dire peut-être que tu peux reprendre le brouillon que j'avais de roman pour l'envoyer à Folio SF pour le concours des 20 ans de Folio SF.
Donc ça, cette reconnaissance de la nouvelle, c'était en 2021 ?
C'était en 2020. Okay. Ouais, en 2020 et par la suite j'ai vu passer le concours de Folio SF et j'avais déjà en fait un brouillon de roman dans ma Dropbox qui traînait depuis un moment que je pensais complètement illisible et je m'étais dit tant pis, comme beaucoup de premiers romans il finira sa vie au fond d'une Dropbox et finalement je me suis dit bah pourquoi pas, au moins regarde ce que ça donne après l'avoir laissé reposer pendant plus d'un an et je me suis dit qu'il y avait quand même des choses à faire avec. J'ai quand même éliminé peut-être les deux tiers, mais il y avait quand même une base, quelque chose à retravailler, et c'est de là que je suis partie pour Folio SF.
Donc là, ce roman-là dont on parle, c'est Daniel Jaune, un monde oublié, qui raconte l'histoire de trois personnages particuliers. Qui sont ces personnages ?
Alors, ces trois personnages, on a une pirate qui arrive sur un bateau pirate, sur une île, qui pensait être la seule survivante d'une grande catastrophe. Donc les habitants de l'île pensaient être les seuls survivants, pensaient que les continents autour avaient été dévastés et pendant des siècles on construit ce mythe comme ça de c'est nous les survivants, c'est nous les meilleurs, on a des pouvoirs magiques, on est trop forts. Et le jour où ce bateau arrive, ça remet complètement en question leurs croyances, leur identité. Et donc on suit une pirate sur ce bateau qui elle souhaite échapper à sa vie de pirate et s'intégrer sur l'île en secret. On a une sorcière qui elle est une figure de faucheuse en fait masquée qui a pour rôle de réguler la population sur l'île. C'est-à-dire que dans un microcosme aussi fermé, il faut vraiment réguler pour pas qu'il y ait de surpopulation, d'extinction, de famine. Voilà, donc elle a pour rôle, dès que quelqu'un naît, de tuer quelqu'un d'autre, de vraiment vérifier aussi la consanguinité, que ça tombe pas trop en vase clos, quoi. Et elle a tout à perdre si des étrangers arrivent, puisqu'elle sert plus à rien. Et notamment, elle va perdre son masque, et elle a des choses à cacher sous son masque. Et le troisième personnage qu'on suit, c'est un vieux marchand de l'île qui est extrêmement riche, extrêmement puissant politiquement, et qui, lui, se dit chouette, du business en plus pour moi, et qui en fait va très vite déchanter puisque lui son business tourne autour de ses pouvoirs magiques qui n'ont plus aucune pertinence dans un monde où il y a des technologies qui arrivent de l'extérieur.
Donc on a deux personnages féminins dont celui d'une sorcière. Ça fait écho avec ton nouveau roman qui est sorti là en 2023, donc Buté pour les fantômes, où ce sont deux personnages féminins dont aussi une sorcière. Pourquoi ce mythe du sorcier ou de la sorcière?
Ouais, de la sorcière, je pense que ça remonte vraiment à mon enfance et à des œuvres avec lesquelles j'ai grandi, comme tous les enfants des années 90 avec les Disney, et notamment La sorcière de Blanche-Neige. On m'a mis la cassette Blanche-Neige toute l'année de mes 3 ans en boucle. Voilà, j'avais 3 parents, papa, maman et la télé. et j'ai grandi avec cette sorcière qui était hyper effrayante et fascinante à la fois parce que c'est d'abord une reine extrêmement belle qui veut garder cette beauté. Ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs comme thématique dans mon roman, et qui pour arriver à ses desseins va prendre une apparence repoussante. Et je pense qu'il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée là-dedans, cette relation à l'apparence, à l'identité, en fait, ce que ça dit de nous. Les autres ne voient que ça de nous. Ils voient que notre apparence physique, ce qu'on dit, nos mots, notre voix. Ils n'ont pas accès à notre intériorité. Et donc de choisir cette apparence repoussante, ça dit aussi quelque chose de la manière dont on veut être perçu. Et puis voilà, donc c'est une vraie sorcière, quoi. C'est pas la sorcière un peu stylée. Des romantaisies, voilà, un peu sexy et tout. Non, elle est vraiment moche, elle est vraiment repoussante. Et il y a aussi dans les contes de la rue Broca, la sorcière de la rue Mouffetard, elle est carrément verte. Et voilà, je pense que c'est vraiment des figures de sorcières qui m'ont vraiment marquée, qui m'ont terrifiée quand j'étais petite, mais qui revêtaient quand même une forme de fascination.
On retrouve un petit peu l'idée dans ton roman Dernier jour d'un monde oublié, le principe de la faucheuse avec son masque, où le beau est forcément bon, ou en tout cas est neutre, et par contre ce qui est moche est forcément maléfique ou mauvais pour la société. Comment est-ce que tu prends cette assertion et comment est-ce que tu le traduis dans tes romans ?
Je trouve que c'est une question qui est hyper, hyper intéressante parce que on n'y échappe pas vraiment. Enfin, c'est le beauty privilege, quoi. Le privilège de la beauté, il existe quand on apparaît dans un cadre où on est considéré comme beau, tout de suite, on a des privilèges. Et vraiment, dans ma vie, avoir été considérée moche et belle, je vois la différence. La manière dont on est accueilli n'est vraiment pas la même. Le regard que les gens portent sur nous, mais même les demandes auxquelles on va accéder, voilà, les négociations ne se passent pas de la même manière. Et c'est vrai qu'il y a forcément cette tentation de se dire si j'apparais comme plus belle, je vais être mieux acceptée avant d'aller en table ronde. Forcément, je me dis, les gens vont plus avoir tendance à penser que je suis une meilleure autrice s'ils me trouvent belle. C'est triste à dire, mais c'est la vérité en fait. Après, la question c'est est-ce qu'on joue de ça? Est-ce qu'on en joue consciemment, inconsciemment? Et qu'est-ce qu'on fait surtout des personnes qui ne sont pas considérées comme belles? Qu'est-ce qu'on fait de soi le jour où on n'est plus considéré comme beau? Quand on vieillit, la question de la vieillesse, c'est aussi quelque chose qui me donne beaucoup à réfléchir. Je mets beaucoup de personnages vieux aussi dans mes romans parce que c'est... Là, pour le coup, on n'a plus accès à ça. On ne peut plus tellement se maquiller, s'embellir pour rentrer dans certains canons. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut perdre vraiment quand la beauté a fait partie de son identité. Et c'est comment est-ce qu'on se reconstruit? Comment on reconstruit un rapport aux autres quand notre apparence a été la base de nos relations, quoi, qu'on a vraiment compté sur ce privilège pendant toute sa vie?
Cette question de reconstruire ou en tout cas de rattraper le passé ou de faire la paix avec le passé, c'est aussi quelque chose qui est essentiel dans Lutter pour les fantômes, puisque là on parle de deux enfants qui n'ont pas eu la même attention affective dans leur jeunesse et qui se retrouvent des années plus tard. Pourquoi toujours se retourner vers le passé? Est-ce que c'est pas plus intéressant de se tourner vers l'avenir en faisant table rase du passé?
Peut-être dans la vraie vie, oui. Dans l'inconscient, on choisit pas ce que notre cerveau nous remonte. Et on se construit forcément par rapport à notre passé, pas par rapport à notre avenir, puisqu'il n'existe pas encore. Et ça, c'est vraiment quelque chose que récemment, je me suis dit, c'est hyper con ce que je vais dire. Mais le futur n'existe pas. On se parle, on a souvent une idée du futur, on se le mentalise tellement, on se le représente tellement, on a l'impression qu'il existe déjà et qu'on n'a plus qu'à l'accomplir. Non, non, il n'existe pas, vraiment, du tout. Alors que le passé, il est là, il existe, enfin, il n'existe plus, mais il existe dans ses traces, dans ses conséquences, et on doit faire avec, pour le coup. Et on a un peu de prise dessus. Et on en voit les effets. On en voit les effets dans notre construction psychologique. Et donc, je trouve aussi que... Pour construire des personnages, tout simplement, narrativement, on n'a que accès à leur passé, puisque leur avenir, on va le raconter dans le roman. Et donc, on est obligé d'en passer par là, par le background, par d'où ils viennent, comment ils ont grandi. Et notamment sur des romans aussi intimes et familiaux que du thé pour les fantômes, où c'est vraiment toute la construction psychologique des personnages vient de la petite enfance.
On va passer au portrait chinois.
Ok.
Première question. Si jamais tu devais être un dieu dans une mythologie quelle qu'elle soit, dieu ou déesse, je te laisse choisir.
Existant ?
Plutôt oui.
Plutôt existant.
Sauf si tu arrives à bien me convaincre d'une mythologie non existante. Ouais.
Je peux vous spoiler un peu mon prochain roman ?
Non.
Non ?
C'est bien sûr que si.
Non, ça va être vraiment un énorme spoil. Je peux pas du tout le faire.
Le spoil étant qu'il va y avoir de la mythologie dans ton prochain roman.
Non, en fait, dans mon prochain roman, c'est une romantaisie où il y a des génies qui sont une forme de panthéon. Donc l'héroïne, c'est par exemple la génie de l'Immaculée. Donc elle règne sur tout ce qui est blanc dans le monde. Voilà.
Et ça sort quand? Chez qui?
Ça sort aux éditions Olympe, qui est la nouvelle collection de romantaisie de Gallimard de Noël. Et ça sort début 2024, et j'ai pas encore le droit de te dire la date. Mais peut-être que quand cette interview sort, c'est déjà passé. Donc c'est sorti le 1er février 2024 chez Olympe.
Très bien.
Et ça s'appelle Porcelaine sous les ruines. Je peux même le dire, puisque le livre est sorti, en fait. Ouais, voilà.
Exactement.
Et d'ailleurs, ça sort sous un autre pseudo, Ada Vivalda.
Pourquoi?
Parce que c'est un tout autre genre. La romantaisie, c'est un autre public, c'est un autre rayon en librairie. Il faut le dire aussi, c'est pas du tout perçu pareil par une grande partie des lecteurs. Donc voilà, j'ai choisi de changer.
Un pseudo par genre.
Ouais, on va peut-être s'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup déjà, deux. Je vais finir comme Carmine dans mon roman avec 57 personnalités. Et en attendant, je n'ai pas répondu à ta question. Parce que j'en sais rien. Je pourrais être...
Eh bien, très bien. Dans ce livre qui vient de sortir, oui, quel génie serais-tu?
Eh bien, je peux pas le dire, sinon c'est un énorme spoiler. C'est ça que j'allais dire, en fait, à la base.
Ah.
Voilà. Je serais le génie que je peux pas dire parce que c'est un spoiler, donc il faut aller voir. Enfin, il faut aller lire Porcelaine sous les ruines pour savoir.
Ça me va. Je sais de source sûre que tu es une grande fan de thé.
Oui.
Il ne reste plus qu'un seul type de thé au monde pour le restant de tes jours.
Waouh, c'est dur. Déjà, c'est triste. Et en même temps, écologiquement, il est possible que très bientôt, on n'ait plus beaucoup de thé. J'ai découvert un truc récemment, et donc je vais dire ça, parce que c'est incroyable. C'est même pas du thé en plus, c'est une infusion d'écorce de fèves de cacao. Alors déjà, ça coûte que dalle. Et c'est vraiment juste des écorces de fèves de cacao concassées, c'est que ça. Mm-hmm. Et c'est infusé dans l'eau et on a l'impression de boire un chocolat chaud. Mais sans les calories.
Je vois.
Donc, je vais choisir ça parce qu'en plus, il n'y a pas de théine. La théine, c'est quand même pas très bon pour la santé. Ça déshydrate. Donc, voilà, je vais choisir ça.
Très bien. Et je suis désolé, je t'annonce que demain, c'est la fin du monde, montée des œufs, etc. Et tu vas te retrouver seul sur une île déserte. Tu as le droit d'embarquer un objet.
Un objet ?
Ouais, un objet. Oh. Qui ne soit pas un livre.
Qui ne soit pas un livre. Un objet qui ne soit pas un livre. Il y a pas de survie, enfin c'est pas pour me sauver quoi. Je vais pas dire j'amène un radeau par exemple.
Tu seras sur une île et tu resteras
et
sur
je resterai île. Sur mon île. Ok,
c'est une île déserte mais pas une île stérile.
Ok. Je pense que je vais amener un truc quand même pour me faciliter la vie, du genre un lit confortable. C'est con hein, mais j'ai besoin de mon sommeil. ou alors un carnet avec un stylo peut-être. Ouais.
Tu n'amènes pas de livres, tu les écris. C'est voilà. Très bien. Cette interview délicieuse s'arrête. La chanson pour la clore.
Je peux dire n'importe quoi.
Tu peux dire n'importe quoi. Alors, sauf si c'est toi qui l'as faite, et dans ce cas, c'est introuvable. Mais.
Genre, ça peut être musique de film et tout.
Bien sûr.
Ça va être Light of the Seven, épisode 9, saison 6 de Game of Thrones.
Ça me va. Merci beaucoup, Chris.
Merci.
bah voilà, au moment où ça se met à péter, on n'aura pas le temps d'écouter en entier ce Light of the Seven, célèbre morceau de la BO de Game of Thrones, composé par Ramin Djawadi. Le choix de Chris Vuklicevic. Et c'est une version live là, du City of Prague Philharmonic Orchestra. Pierre-Marie, tu avais une news à nous donner.
Oui, j'ai une news à vous donner qui n'est pas une bonne news, mais on a dit que cette émission était une émission spéciale déprime. Vendredi 2 février, nous est venue une très triste nouvelle, en tout cas pour l'association. Mais il fallait qu'on en parle forcément. C'est la fermeture de la maison d'édition Noir d'Absinthe. Après 6 ans à publier du gothique, de l'imaginaire, et avoir des prises de position assez fermes pour défendre les auteurs globalement, mais surtout les autrices, la place des autrices, cette maison d'édition ferme ses portes, fatiguée de toute l'énergie dépensée pour la maintenir à flot et garder son identité de micro-édition. C'est très triste comme nouvelle, et bien sûr, nous sommes de tout cœur avec Morgane et Louise, qui sont les deux éditrices phares avec qui nous avions le plus de rapport, mais surtout toute l'équipe qui est avec elle. Ceci étant dit, je pense que tu vas pouvoir mettre une musique un peu plus intéressante et pour remonter le moral de tout le monde.
Bah non, justement, j'avais un truc hyper triste pour terminer cette émission que je voulais passer depuis un moment. C'est Wintergrave, déjà le nom du mec.
Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que si cette émission est aussi triste, c'est parce que c'est la dernière émission avant la Saint-Valentin et que ça nous touche tous.
Bah voilà. Bon, là, c'est un disque Skog Cat. Vous savez ce que c'est que le Skog Cat?
Moi, à chaque fois, quand tu me dis ça, ça me fait penser, tu sais, à la musique dans Les Aristochats. Je veux être un cat. La meilleure musique de jazz qui existe. À la limite, avec celle du Livre de la Jungle.
Oui, bah là, pas trop. Alors, le Skog Cat, c'est le chat norvégien. Vous voyez ce que c'est? C'est quand même une des races les plus présentes en France.
Ah, oui. Elle est imposante.
Il est quand même bien, bien poilu. Et Wintergrave, c'est un monsieur qui vit dans l'Ohio, mais je pense qu'il est d'origine norvégienne parce que. Il parle beaucoup de la mythologie nordique, hein, chère à Karine notamment, oui. Dans ses disques. Et le Skog Cat, c'était aussi un chat qui accompagne Freya, une déesse qui, tu peux peut-être nous expliquer, elle est sur un champ de bataille qui est un genre de purgatoire en fait, c'est ça?
Freya? Bah c'est la reine des Nornes, donc la reine des Ases, si je me souviens bien, donc une des trois familles des divinités nordiques, plus que scandinaves, puisque sa présence est avant tout germanique, avant d'avoir été récupérée plus tard par le Danemark et la Norvège. C'est la femme, l'équivalent de la femme d'Odin et mère de Thor, donc c'est quand même la déesse mère à qui on donne la fertilité de mémoire.
Oui, aussi, non, ouais, tout
pas,
à fait. Ouais.
Ouais.
Donc, alors, ces animaux et ces attributs, ouais. Je ne sais
si,
pas.
Si, elle a toujours des chats avec elle,
ouais,
en fait.
Mais
chats norvégiens. Voilà. Bon, donc là, Wintergrave, il a fait son disque sur le décès de son chat. C'est pour ça que moi, je trouve, et ce disque est vraiment super triste. Alors, c'est en fait assez rare. Je me suis rendu compte que je pense pas que j'ai d'album chez moi qui soit consacré au décès d'un animal familier. Autant des fois j'ai des disques qui sont inspirés par la disparition d'humains en fait hein, à des musiciens. Et donc voilà, on se termine cette émission. Donc ce sera le morceau To Find Solace in the Trees.
J'ai un petit message à passer, mais c'est aussi pareil, une petite dédicace pour se remonter le moral dans toute cette émission. C'est aussi une musique que je vous encourage à aller écouter pour vous mettre un peu du baume au cœur. Ça vient de Jans et je vous donne juste le refrain. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Sur ce, tu peux lancer tes musiques.
Allez, on se retrouve dans 2 semaines dans Imaginaire sur le 101.5.